Ben, c'est probablement la bonne nouvelle du jour. Moderna, donc la compagnie biotechnologique, qui annonce un vaccin contre la COVID efficace à 95 % si on arrondit. Ça fait suite, bien entendu, à l'autre annonce de la semaine dernière, Pfizer, qui dit être en bonne voie de pouvoir produire un vaccin efficace à 90 %. Le docteur Richard Marchand est microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonne nouvelle, hein, docteur Marchand?
Oui, bonjour. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, on s'attendait à ça, parce que avec les technologies nouvelles de développement des vaccins, la probabilité d'avoir des vaccins qui sont capables d'induire la production d'anticorps et une bonne réponse immunitaire était très élevée. En haut de 80 % pour probablement une dizaine sur la quinzaine qui est en cours de développement. Le problème, ça sera pas d'avoir un vaccin qui bloque le virus. Ça va être d'avoir des vaccins qui n'auront pas d'effet secondaire prouvé jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'à chaque fois qu'on a développé des vaccins dans le passé, des nouveaux vaccins, bien, des fois, on a eu des surprises. Et à plusieurs reprises, même, on a eu des surprises. Fait qu'ici, là, faut se réjouir parce qu'on a un espoir en vue, mais il va falloir qu'on valide qu'il n'y a pas d'effet néfaste par la suite.
Donnez-nous un exemple d'effet néfaste qu'on a vécu là et qui donne la mesure, la pleine mesure des risques qu'on court avec un nouveau vaccin.
Bon, ben dans les années 76, quand on a développé un nouveau type de vaccin contre l'influenza, on s'est ramassé avec beaucoup de paralysie, là, qu'on appelle des Guillain-Barrés, pendant un bout de temps. Un vaccin qui avait été développé aussi dans les années 80 par les pays scandinaves contre le méningo s'est ramassé avec beaucoup d'anémie hémolytique parce qu'il y avait des réactions croisées avec les groupes sanguins qui se faisaient là, au niveau des anticorps. Bref, je pourrais... Puis après ça, il y a eu aussi plusieurs vaccins historiquement qui avaient été associés avec des myélites transverses et des maladies neurologiques. Donc oui, on a développé des vaccins, mais quand on développe un vaccin contre un nouveau, pour la première fois contre un nouveau virus, là, ou en fait, même si on les connaît depuis longtemps, ces coronavirus-là, mais c'est un nouveau type de vaccin, des fois on a des surprises. Et historiquement, on en a eu suffisamment pour être décidé d'être prudent, oui.
Et être prudent dans ce cas-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas nous emballer, ça veut dire prendre pour acquis qu'avant d'avoir accès à ce vaccin, avant de pouvoir se faire vacciner, il y a quand même plusieurs étapes à traverser, là.
Ah, absolument. Non seulement il fallait prouver l'efficacité, mais après ça, il va falloir prouver l'innocuité au long cours, puis pas l'innocuité à court terme, l'innocuité au long cours. Donc, ça va prendre des délais de 3 à 6 mois minimum entre des premiers grands groupes vaccinés avant de dire qu'on n'a pas de problème, là. Donc, sur le plan technique, en ce qui me concerne, on va pouvoir peut-être vacciner même dès le début janvier, février, mais ça sera encore dans un contexte expérimental. Ça ne pourra pas être, à mon avis, fait sur une échelle de façon telle qu'on ne puisse pas évaluer là, les risques.
Oui, donc une vaccination de masse, mettons le scénario le plus optimiste, là, ce serait quoi? Ce serait mars, avril?
Non, ce serait plutôt, à mon avis, à moi, avec des preuves de sécurité, là, c'est juin à septembre l'année prochaine.
Pourtant, on a l'impression que les compagnies ont l'air de penser que ça va être plus tôt que ça. Est-ce que est-ce qu'on les comprend mal ou est-ce qu'elles nous donnent de faux espoirs ou est-ce qu'elles poussent la machine?
Ils donnent pas de faux espoirs. Tant qu'on regarde l'efficacité, ça vaut la peine et chacun vante ses mérites et c'est normal. N'oubliez pas que le but aussi des compagnies, ben, c'est de répondre à la pression que les acquéreurs qui sont nos gouvernements de ces vaccins-là font, c'est-à-dire dire oui, on a de l'efficacité puis qu'on va être capable. Mais la sécurité, ça va prendre plus de temps à démontrer et c'est pour ça qu'on va être capable de vacciner, oui, très rapidement. Mais est-ce qu'on va avoir fait la démonstration de la sécurité au long cours? La réponse, ça ne sera pas complète avant plusieurs mois.
Au long cours, ça veut dire quoi pour vous? Là?
Au long cours, c'est facilement un délai de 3 à 6 mois après les premiers vaccinés sur une grande échelle.
Aïe, aïe, aïe. Donc vous, là, Dr Marchand, là, mettons là, que le vaccin est disponible. Mettons qu'il serait disponible, là, je dis n'importe quoi, là, mais mettons en mars. Okay? Vous travaillez dans le secteur de la santé, on vous donne la possibilité parce que vous êtes dans le secteur de la santé, on priorise le personnel de la santé. Monsieur Marchand, monsieur le docteur Marchand, vous pouvez vous faire vacciner. Vous allez répondre quoi?
Ben, la première chose que je vais aller voir, parce que moi, j'ai déjà fait de l'enseignement sur l'art de faire des vaccins, des applications biotechnologiques, l'immunologie à l'université. Première chose que je vais poser comme question, c'est quoi la cible du vaccin? C'est-à-dire, c'est quoi la cible du virus et est-ce que cette cible-là qu'on cherche à faire, pour laquelle on cherche à faire développer des anticorps peut ressembler à des composantes du soi? Là? Est-ce qu'on pourrait, par hasard, est-ce que les réponses immunitaires pourraient s'attaquer à nous-mêmes plutôt que juste au virus? C'est la première chose que je ferais avant de dire que je me fais vacciner. Et si je soupçonne qu'il y avait de la possibilité d'une réponse auto-immune, je serais très prudent avant d'accepter de me faire vacciner. Et ça, je vous le dis en toute honnêteté.
Oui, bien c'est ça. Vous êtes très honnête, on l'apprécie, mais vous comprenez que des gens qui nous écoutent, qui sont déjà un peu sceptiques par rapport au vaccin, pourraient puiser dans vos réponses la motivation pour se convaincre de ne pas aller se faire vacciner.
Bien, ça serait une erreur aussi de ce côté-là. L'inverse, c'est pas mieux. En deux mots, il faut choisir le moindre. Ça, c'est toujours le principe. Mais ici, vous avez un organisme gouvernemental qui s'appelle Santé Canada et dont c'est la job, entre guillemets, là, de s'assurer et de vérifier. Et si vous écoutez bien Santé Canada, ils sont heureux de nous dire qu'on a des vaccins qui s'en viennent. Mais en même temps, combien de fois ils vous répètent par en arrière? Et soyez pas trop optimistes parce qu'on n'a pas encore la preuve de son innocuité. Ça, vous les entendez, les gens de Santé Canada qui nous disent ça? Là?
Bon. L'autre affaire qu'on
ils
voit...
Ils disent la réalité telle qu'elle est.
Oui, oui. Puis honnêtement, moi, je préfère avoir la franchise plutôt que d'avoir le rêve qui va s'avérer déception. Là. Mais parallèlement...
Il ne s'avérera peut-être pas déception. Non. Pour rêver pareil. Ça, le rêve, c'est très important d'en avoir. Et moi, je reste optimiste. Mais c'est un optimisme prudent.
Oui, réaliste. Voilà. Bon. Parallèlement à ça, là, on apprend que les visons ont transmis le virus à des humains. Et dans certains cas même, je pense qu'on parle du Danemark, ils ont même transmis une nouvelle souche du virus. Les visons ont transmis une nouvelle souche du virus aux humains, à des personnes qui travaillaient sur des fermes. Là, je me dis, si on est en train de travailler sur un vaccin pour une souche et que le virus est en train de muter, est-ce à dire que le vaccin pourrait ne pas être efficace pour certaines souches du virus?
Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle le Danemark veut éliminer 17 millions de visons comme tel. Mais les coronavirus, on les connaît depuis la fin des années 20, début des années 30. Les premiers coronavirus étaient connus chez le poulet et on connaît actuellement là, 39 espèces de coronavirus avec près de 600 génotypes. Là. Donc, les coronavirus, on en voit et un autre. Chaque espèce animale en a 5 ou 6 à son actif. Chez l'humain, là, le dernier qui vient d'arriver, la COVID-19, c'est le 7e coronavirus qu'on a. Et quand on met des animaux ensemble, que ce soit le pangolin d'Afrique ou la chauve-souris, ben, ou un humain avec un cochon ou un vison, ou encore, tu sais, quand on met deux espèces animales qui ont chacun leur coronavirus, ben oui, il y a une probabilité mathématique que le même virus se ramasse dans les deux se ramassent en même temps dans le même animal et qu'ils se recombinent différemment. Et c'est pour ça que les coronavirus, ben, mute, échange avec le temps. Par exemple, le MERS qui a eu au Moyen-Orient, le coronavirus du Moyen-Orient il y a quelques années, ben, il venait du chameau qui s'était transféré à l'humain. Et oui, cette probabilité-là existe depuis toujours, en fait.
Donc, il faut pas s'en inquiéter, il faut pas lire les manchettes à propos des visons comme étant un danger, un danger qui pourrait compromettre nos chances de lutter efficacement, de stopper éventuellement cette pandémie, il faut pas, non?
Oui, ben, d'abord, faut pas l'éliminer, il faut toujours la garder en arrière-pensée, mais ça pourrait être vrai avec le chien ou le chat que vous avez chez vous, là. Ça pourrait être vrai avec d'autres espèces animales. Donc, autrement dit, faut être prudent, faut toujours faire attention et essayer d'éliminer les conditions qui pourraient permettre ce genre de mutations-là ou d'échanges entre les différentes espèces animales. Parce que les échanges sont plus faciles entre certaines espèces que d'autres. Hein, par exemple, les espèces porcines de virus porcin sont plus faciles à communiquer à l'homme, je pense à l'influenza ici, que par exemple celui de la baleine. OK, on s'entend là-dessus. Oui. Puis, mais toutes les espèces peuvent théoriquement amener un virus qu'on peut échanger ou partager en partie. Mais il faut tenir ça tout le temps en ligne de compte. Il faut garder ça en arrière-pensée, là, parce que ça fait partie des risques, oui, qu'on ait un mutant qui nous élimine ou nous enlève la possibilité de vacciner. Et dans le contexte ici du vison, ben, c'est un animal qui a déjà démontré son hypothèse comme potentiel vecteur actuellement en Chine du coronavirus, parce qu'on a trouvé des séquences de pangolins, mais on a trouvé des séquences aussi de la chauve-souris et du vison. Donc, à partir du moment où vous avez des composantes qui appartiennent à des virus d'animaux particuliers, bien, ce risque-là est plus grand parce qu'il y a déjà une forme d'adaptabilité qui est déjà faite.
En terminant, est-ce que vous êtes inquiet pour les fêtes? Est-ce que vous êtes inquiet pour les rassemblements familiaux aux fêtes?
Énormément. Alors, regardez, là, actuellement, on vient de terminer la vaguelette que j'appelle de l'Halloween. Hein. Vous savez, il y a 15 jours, on avait l'Halloween et il y a eu un échange de virus qui s'est fait parmi les jeunes. Et ça, on s'y attend. D'ailleurs, si vous regardez actuellement le dernier groupe qui est en croissance, là, c'est le monde scolaire. Hein, les gens se posent la question, comment ça se fait qu'il y en a plus dans les écoles tout à coup? Bien, ce qu'on voit là, 10 jours plus tard, donc il y a à peu près une semaine, bien, c'est essentiellement la vaguelette qui a suivi l'Halloween. Vous voyez ce que ça a donné, là, puis ce que ça nous donne comme problème actuellement au Québec.
Le fait qu'on ait permis aux enfants de passer l'Halloween, vous dites que c'est responsable de l'augmentation des cas qu'on observe présentement.
C'est temporellement la probabilité, à mes yeux, la plus probable. Okay. Imaginez ce qui peut se passer quand on va arriver aux fêtes.
Docteur Richard Marchand, microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup, Docteur Marchand.
Bienvenue.